Vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Faire régulièrement du vélo en ville pourrait nous aider à nous garder en santé. Savez-vous que c'est aussi une activité particulièrement bénéfique pour les personnes diabétiques ? C'est sans doute pour cela et bien d'autres choses que les municipalités investissent de plus en plus dans les pistes et les bandes cyclables. C'est pour favoriser le transport actif. C'est plus de 1000 km dans la métropole de Montréal avec son réseau express vélo, le REV, quelques centaines de kilomètres à Sherbrooke ou encore quelques centaines à Québec et 60 km qui devraient être ajoutés d'ici 2028 à Québec. Enfourcher la petite reine serait particulièrement bon pour notre système cardiovasculaire et aussi pour notre santé mentale. Cela contribuerait à la lutte contre le stress. Bixi, à vélo, les compagnies de location de vélos urbains rendent ça de plus en plus accessible. C'est surtout vrai pour les gros centres urbains et la période estivale. Pourtant, même dans la métropole, cela reste moins de 3% de l'ensemble des déplacements urbains. Se garder en santé par le vélo, est-ce possible? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous intéressons au transport actif et plus particulièrement au cyclisme en ville. Nous allons parler des bénéfices pour la santé de faire du vélo de manière régulière et pas juste pendant les congés. Donc pour en parler, je rejoins aujourd'hui le docteur Paul Poirier, professeur titulaire à la faculté de pharmacie de l'Université Laval, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et porte-parole de l'événement « Ça roule doc ». Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Louis Lalonde, porte-parole à Vélo Québec, chargé de projet au sein du mouvement Vélo Sympathique, un programme d'accompagnement et aussi une démarche de certification pour les collectivités, les employeurs et les campus même. Bonjour.
Bonjour.
Devenir un cycliste plus régulier, du moins quand la saison est belle, offre des avantages pour la santé. Pourtant, à Montréal et ailleurs, ce type de déplacement pour le travail reste encore marginal. On parlerait de moins de 7% de l'ensemble des déplacements urbains à Montréal pour le vélo, mais aussi pour la marche ensemble. Donc, on le sait, il faut favoriser les déplacements actifs et le vélo urbain pourrait être une bonne option. Pour commencer, Monsieur Lalonde, quel est l'état de la pratique du vélo urbain au Québec?
Bien, largement, le vélo, selon les données de Vélo Québec, on a environ là, 4,5 millions de personnes qui font du vélo durant la belle saison. Donc, pas nécessairement sur une base quotidienne, mais disons des gens qui se mettent en selle au moins une fois par année. Si on y va sur une base hebdomadaire, là, on tombe autour de 2,7. Donc, c'est dire qu'on a à peu près le tiers de la population québécoise qui se déplace à vélo ou qui va faire du vélo. Pour les données plus précises de navettage, ben là, vous avez déjà précisé qu'est-ce qu'il y en est. À noter que, par contre, dans les endroits où on a une plus grande densité, par exemple des quartiers centraux ou des endroits où on a un réseau cyclable qui est plus développé, ben là, on va atteindre des parts modales qui sont plus significatives. Là. Si on parle, par exemple, du plateau Mont-Royal, on va se retrouver autour de 13, 14, 15 %. J'ai aussi en tête Hochelaga-Maisonneuve, on est autour de 8, 9 % là, durant la belle saison.
Oui, ça c'est durant la belle saison. Est-ce que l'hiver, ça chute drastiquement, j'imagine?
Les choses changent, bien sûr. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a une rétention qui est de plus en plus importante. En 2020, Vélo-Québec estimait là, qu'on avait une rétention cycliste hivernale à Montréal de l'ordre de 13,6%.
Ça veut dire quoi? Combien de personnes exactement?
En fait, à l'échelle provinciale, là, on peut dire qu'on a environ là, 190 000 personnes qui continuent de faire du vélo durant les mois les plus froids, là, donc janvier et février. Là. Cette donnée-là, elle continue de croître assez rapidement. Puis la raison principale qui l'explique, bien, c'est le déneigement des infrastructures cyclables. À Montréal, par exemple, on a environ 72 % du réseau qui est dit déneigé. C'est un déneigement qui est parfois inégal, mais qui permet à bien des gens de se déplacer en toute saison.
Donc, près de 200 000 courageux d'hiver, finalement. Professeur Poirier, quels sont les bénéfices de pratiquer régulièrement du vélo et comment ça se passe à Québec, de votre côté, le vélo?
Les bénéfices sont des bénéfices qui sont divers. Un, si je me prends à la place du médecin, ça diminue le risque de diabète, d'obésité, d'hypertension, de tout ce que vous voulez. Au niveau santé cardiovasculaire, ça c'est une chose. Alors, au niveau médical, c'est ça. Au niveau de la santé mentale, ça diminue l'anxiété, ça diminue la dépression. Et les gens qui font du vélo, ils ont une partie de leur journée de fête quand ils arrivent au travail parce qu'ils réfléchissent pendant leur vélo au lieu d'avoir un volant dans la main puis d'être pris dans un trafic puis de décompenser parce qu'il y a du trafic. Alors, ça, c'est beaucoup plus agréable. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ça diminue l'absentéisme et ça coûte moins cher d'assurance pour les employeurs parce que les gens qui font du vélo, c'est sûr que s'ils se font frapper, c'est une autre chose, là. Mais les gens qui font du vélo sont plus en forme, sont plus performants au travail, font moins d'absentéisme et moins de présentéisme également. Et ça, c'est tous les bienfaits. Vous allez me dire, c'est la meilleure affaire depuis le pain tranché. Non, mais c'est rendu que en 2024, il faut combattre la sédentarité parce que les gens, quand ils prennent leur voiture puis qu'ils vont au travail, qui reprennent leur voiture pour aller à la maison, ben ils restent encabanés le restant de la journée, puis ils regardent les émissions. Surtout avec l'offre qu'on a à la télévision, ben les gens peuvent facilement ne pas être actifs.
Oui. Est-ce qu'on roule beaucoup à vélo à Québec? Est-ce que c'est simple?
On est en train de développer ça. Le réseau de vous savez très bien par rapport à Montréal que le réseau de transport en commun est en retard sur bien des villes de la même taille. On n'a pas de métro. On chicane pour le tramway depuis je ne sais pas combien d'années. Alors, vous comprenez que puis le maire Marchand, il est très, que je vous dirais, très pro-vélo, pro-transport actif. Alors, mais vous savez qu'il y a la dichotomie, puis il y a la guéguerre entre ils vont couper des stationnements, puis ils vont couper des voies carrossables. Puis là, ben c'est pas ça. Il ne faut pas voir un versus l'autre. C'est un et l'autre.
Oui. Monsieur Lalonde, avec le réseau Express Vélo, le rêve, là, est-ce que c'est plus simple maintenant d'enfourcher son vélo en ville? Ou non? Parce que
Moi, je constate que oui, assurément. Puis la raison pour laquelle ce type d'infrastructure-là a une grande valeur, c'est qu'on l'a, on conçoit des aménagements qui s'adressent aux personnes d'une plus grande diversité de capacités, d'habileté, plusieurs niveaux d'âge, parce qu'on a une infrastructure qui est plus large, qui est séparée physiquement de la voie des voitures. Donc, le sentiment de sécurité, donc on parle souvent de sécurité réelle, mais le sentiment de sécurité est aussi très important pour assurer la convivialité. On a une largeur qui permet de faire des dépassements de façon confortable, sans affecter justement le sentiment de sécurité de l'autre, sans qu'on ait par exemple à une autre direction avec une voie bidirectionnelle à négocier, ça c'est toujours moins confortable. Donc en ayant des bons aménagements, bien, on va induire évidemment la pratique, ça reste la meilleure façon d'inviter un plus grand nombre, il y a d'autres façons bien sûr, on pourra en reparler, mais je dirais aussi de s'assurer du confort de tout le monde pour que le vélo se démocratise, pour qu'on ait cherché une plus grande variété de personnes qui s'y déplacent.
Il y a le
terme ici, démocratiser, est super important. Parce que il y a des gens qui vont voir, ils vont dire, je ne ferai pas de vélo parce qu'il y a beaucoup de côtes à Québec, puis ils vont forcer. Alors, d'avoir un vélo électrique aide beaucoup à ce niveau-là. Et nous, avec à vélo, depuis que ça a été mis en place, on va frapper en 2024 un million de déplacements avec le nouveau à vélo.
Oui, c'est comme Bixi, hein, ça.
Oui. Alors, vous comprenez que ça s'en vient. La problématique, c'est que il faut que ça soit sécuritaire et que ça soit démocratique. Vous comprenez que les gens qui vont arriver à l'ouvrage puis qui pourront pas prendre leur douche ou se changer, parce que c'est pas toujours simple. Là. Vous parlez de l'hiver. Oui. Moi, si j'arrive à l'ouvrage, il faut que je puisse me changer, il faut que je puisse prendre ma douche. Il faut que je m'amène peut-être des habits, parce que si j'ai une rencontre importante, je peux pas être habillé en mot à l'ouvrage. Alors, il faut que je m'amène les vêtements la veille pour pouvoir me changer. Alors, c'est juste une autre organisation du travail, mais c'est pas grave. Je veux dire, dans les pays scandinaves, ça se fait très bien. Quand vous traversez la rue dans les pays scandinaves, vous regardez pas si vous allez faire frapper par un auto, vous regardez si vous allez faire frapper par un vélo.
Oui, alors, mais... Même à Montréal, en ce moment, avec le rêve, des fois, ça devient une autoroute, ça devient compliqué. La cohabitation devient compliquée aussi.
C'est exactement ça. Alors, les vélos, il faut qu'ils apprennent aussi à pouvoir dire, je vais arrêter au feu rouge, puis je vais arrêter au stop, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'ils veulent garder leur élan à 25 ou 30 km/h.
Oui.
Oui,
oui, c'est beau. Monsieur Lalonde, cette autoroute...
Oui. Puis je vous dirais juste à 30 secondes.
Allez-y.
Moi, je suis cardiologue, OK? quand ils portent pas de casque, ben ça fait des bons donneurs. C'est la première affaire que je pense.
OK. OK. Monsieur Lalonde, c'est des fois ce rêve-là, c'est peut-être plus un cauchemar pour certains aussi, parce que ça devient des autoroutes et ça devient très compliqué. Il y a beaucoup de plaintes autour de, justement, ces heures de pointe où tout le monde est collé, puis les piétons aussi, ou les autres, on va dire, qui partagent la route.
En fait, je vous dirais justement, ces voies-là dont on a mentionné les caractéristiques, mm-hmm. qui sont plus conviviales, qui sont plus larges, ont justement une capacité d'accueillir un plus grand nombre de cyclistes. Mm-hmm. Donc, elles ont un effet, disons, de catalyseur du navettage qui est plus important.
C'est vrai.
Contrairement à certaines infrastructures qu'on pourrait voir comme étant saturé. On a des aménagements qui datent d'il y a un certain temps. On peut penser par exemple à la piste sur Rachel à Montréal, qui est là depuis très très longtemps. Ça fait au-dessus de 20 ans. Là, c'est un aménagement là, qui date. Or, par sa conception, est un peu à pleine capacité. Donc, l'augmentation du réseau cyclable permet d'accueillir justement ce plus grand nombre de cyclistes-là. Puis pour l'instant, par exemple, à Montréal, la part de rue qui est consacrée au vélo reste relativement faible. On parle de 1,7% selon Polytechnique Montréal. Donc, on a cette perspective-là où on est envahi par des infrastructures.
Oui.
Mm-hmm. Ah, non. Ça reste un espace de rue qui est fortement rentabilisé, c'est-à-dire que des cyclistes, ça prend pas beaucoup de place, ça se déplace facilement, ça induit très peu de trafic et ça va justement faciliter les déplacements des gens et bénéficier à notre santé individuelle et collective, là, comme on en parle aujourd'hui.
Il y a quelques années, il y avait un article qui soulignait qu'il vaudrait mieux y aller doucement pour éviter les blessures en vélo, justement. Une dizaine de chirurgiens orthopédistes de la Cité de la Santé de Laval invitaient même la population à éviter des activités comportant un risque de blessures et d'hospitalisation. Ils mentionnaient le vélo, mais aussi le patin à roues alignées, là. Qu'en pensez-vous, professeur Poirier?
Ah, écoutez, c'est des orthopédistes, OK? Moi, je suis cardiologue, OK? Les gens meurent du cœur. Ils meurent du fracture de hanche quand ils ont 90 ans, mais ils meurent du cœur. Alors, je pense que le vélo, ici, est une activité qu'il faut privilégier. Le problème, puis vous pourrez en parler avec d'autres gens, c'est qu'il y a des trottinettes qui roulent à 25-30 km/h. Alors, il y a un danger à courir à vélo, mais c'est rendu qu'on est tellement aseptisé que même nos enfants au primaire peuvent pas jouer dans la cour d'école au cas où éventuellement il y aurait une possibilité qu'ils se blessent. Là, à un moment donné, là, il faut arrêter, là.
Oui, mais le port du casque est quand même recommandé.
C'est sûr que le port du casque est recommandé. Comme je vous ai dit tantôt, pour moi, quelqu'un qui fait du vélo à 25 ou 30 km/h et qui fait une commotion cérébrale et qui devient invalide parce qu'il fait une commotion cérébrale, vous allez me dire que c'est une anecdote. Mais c'est des gens jeunes.
Oui, mais il y a aussi...
Allez-y.
Il y a aussi peut-être de trouver la bonne activité pour nous avec le bon rythme. Peut-être qu'on voit le vélo comme quelque chose de tellement facile que, parce qu'on en a fait quand on était enfant, et donc, je dirais, allons-y. Mais des fois, certaines personnes se remettent à faire du sport soudainement, puis peut-être qu'ils devraient y aller plus progressivement.
Ça, c'est clair. Start low, go slow. La problématique, c'est que tu as fait du vélo, puis là, tu es rendu à 10, 15, 20 ans plus tard, puis là, tu as dit, je vais être capable de courir la même affaire. Et non. Alors, il faut faire attention. De là, l'utilité du vélo électrique qui démocratise et qui te permet d'aller tranquillement. Puis là, au lieu de travailler sur le mode booster de votre vélo électrique, de façon, je vous dirais, faire une transition vers le mode écono. Fait que là, à ce moment-là, vous avez développé la musculature appropriée.
Oui, de faire du vélo stationnaire peut-être pendant l'hiver?
Ah oui, c'est sûr. Mais avez-vous déjà fait?
Non.
Pour l'ours moyen québécois, ce que j'essaie de leur dire, c'est d'acheter un vélo stationnaire, d'en faire devant la télévision, puis ouais. Pour les mordus de hockey, d'en faire pendant une période. Alors, avec les annonces puis les arrêts, ils vont faire 30 à 35 minutes de vélo.
Ah, ben c'est déjà ça. C'est déjà
oui,
ça.
Mais si vous voulez vous acheter un vélo, ben achetez-le, je vous dirais, à peu près à la Saint-Valentin. parce que tout le monde l'achète au mois de janvier, parce qu'ils veulent arrêter de fumer, puis de faire de l'activité physique, puis arrêter de boire, puis perdre du poids, puis ça, ça ne dure pas cette semaine, puis ces résolutions-là, ben ils sont toutes, ils prennent toutes le bord au mois de février, fait qu'achetez-les sur Marketplace au mois de février, ça va coûter moins cher.
Entendez. Monsieur Lalonde, comment favoriser la pratique du vélo en ville, d'un point de vue aussi de la question de sécurité, du bon partage de la route, ouais, ou des obstacles qui peuvent se présenter?
En fait, y a une première solution qu'on a évoquée, là, qui est d'avoir des aménagements conséquents. Donc, des aménagements qui sont destinés à des gens de tout âge, toute habileté, qui induisent aussi des bons comportements. Donc, une bonne conception va faciliter la question, par exemple, des déplacements ou la cohabitation, comme on a mentionné. Cela étant, je préciserais quand même que la mobilité, c'est une question de culture aussi. On parle la culture de l'automobile, bien, il y a le corollaire aussi durable, la culture de la mobilité durable, où on peut induire des bons comportements. Donc, oui, on a l'infrastructure physique, mais on a, comme vous avez mentionné, des gens qui sont plus éloignés, par exemple, de la pratique du vélo. Donc, est-ce qu'on a des opportunités pour faire de l'apprentissage? Est-ce qu'on a des opportunités d'avoir de l'information ou se former à la mécanique vélo? Parce que la crainte d'un pépin est présente chez plusieurs personnes. Il y a certains groupes aussi qui sont moins portés vers le vélo, notamment en termes de comparatif, les genrés, les hommes versus les femmes, on a un taux de pratique chez les femmes, selon Vélo Québec, là, dans nos études de 2020, est à 47 %, chez les hommes, est à 62 %. Donc, il y a un manque à gagner. C'est pour ça, d'ailleurs, que Vélo Québec a mis sur pied, là, il y a quelques années, un programme qui s'appelle Tout à vélo, où on crée un espace sécuritaire physiquement, émotionnellement, pour et par des femmes, pour apprendre le vélo, pour se remettre en selle. Donc, ne pas assumer là, que tout le monde est à l'aise dès le départ, c'est très important. Il y a des mesures incitatives qui peuvent être mises en place. On a parlé d'Avélo ou de Bixi, donc l'accessibilité, comment mettre des vélos dans les mains des gens, c'est très important. Et bien, à travers tout ça, bien, l'important aussi, c'est d'avoir une planification au niveau de nos municipalités. Est-ce qu'on a de la donnée pour l'appuyer également? Est-ce qu'on prévoit la poursuite de l'étendue de notre réseau cyclable, sa mise à niveau? Il y a une multitude de leviers sur lesquels on peut intervenir, puis ben, faut orchestrer tout ça pour justement changer notre culture de la mobilité.
Docteur Poirier, vous êtes le porte-parole de l'événement Ça roule Doc. Présentez-nous cet événement. C'est quoi exactement Ça roule Doc? C'est tous les docteurs à vélo?
Bien, Ça roule Doc, c'est une conscientisation que quelque chose qui est très, très simple, OK? Et on veut que les professionnels de la santé en parlent à leurs patients.
Oui.
Alors, on a fait des professionnels de la santé, c'est pas juste des docteurs, et il y a aussi des gens d'affaires. Et ce qu'on fait, c'est qu'on part du PEP de l'Université Laval, on va aux plaines et on revient. Ça, c'est 12 kilomètres. Mm-hmm. 50% des gens à Québec, pour aller travailler, font ces distances-là. Okay? Alors, c'est pour montrer que ça tue pas personne, que c'est faisable, dans un environnement sécuritaire, comme depuis qu'on parle depuis tantôt, et on veut... C'est juste une conscientisation au phénomène que peut-être vous pourriez aller travailler à vélo. Est-ce qu'il faut aller travailler à tous les jours? Non. Mais si vous y allez deux ou trois fois par semaine, à 15 à 20 km/h pour votre 12 km, ben, vous allez faire une heure de vélo par jour, 60 minutes, et on considère pour la santé cardiovasculaire de faire 150 minutes d'exercice par semaine. Alors, vous l'avez, là.
Oui, ça serait l'idéal. Et c'est quand exactement cet événement-là?
On fait ça au mois de septembre. On a entre 300, c'est la troisième édition. On a entre 300 et 500 participants. Et comme il dit dans les annonces, c'est de 7 à 77 ans. Et c'est une activité qui se veut ludique et familiale. On va à la vitesse du bonheur.
Oh! Qui est la vitesse, finalement, de la pédale? C'est ça?
Bien sûr, ça ne donne rien. Parce que quand tu vas en vélo pour travailler, bien, je veux dire, OK, tu peux prendre une crevaison, puis être en temps, puis c'est par ça. Mais il faut que tu y ailles à ton rythme. J'en avais parlé tantôt.
Oui, M. Lalonde, vous êtes chargé du projet au sein de mouvement Vélo Sympathique. C'est quoi cette initiative de Vélo Sympathique?
Alors, le mouvement Vélo Sympathique, c'est un programme de Vélo Québec qui est actif depuis 2015, en fait, qui se veut un programme d'accompagnement pour les employeurs, les campus, les municipalités dans le développement de leur culture vélo. Donc, ça s'articule beaucoup à travers une certification, mais également toute une panoplie de ressources qu'on met à disposition et de l'accompagnement personnalisé. Donc, lorsqu'on reçoit une candidature, par exemple, d'un employeur, il va y avoir un processus assez étoffé par lequel il va y avoir un questionnaire. On remplit, on fait l'état des lieux dans tous les volets qui peuvent toucher la mobilité à vélo du personnel. Ensuite, on va avoir une analyse à l'interne et avec un comité de juges experts indépendant de Vélo-Québec qui décerne un grade et qui, ultimement, va déboucher sur un rapport de rétroaction qu'on remet à l'employeur qui va le pister vers des meilleures pratiques ou des façons d'adapter sa situation ou d'améliorer la situation du vélo en entreprise, par exemple.
Ça a l'air compliqué. Est-ce que vous êtes pour... créer des douches, par exemple, ou des vestiaires, oui. Concrètement, dans les entreprises.
Dans son expression la plus simple, oui, effectivement, c'est aussi, l'idée, c'est de démystifier tout ça. Donc, en faisant cet inventaire-là, après ça, on peut dire, on a calculé votre ratio employé-stationnement vélo et vous êtes déficitaire, donc augmenter un certain nombre de places. Ah, on a noté qu'il n'y a pas d'outils à la disposition des employeurs. Est-ce qu'il y a, par exemple, des activités à l'interne ou des midi-conférences qu'on peut faire sur comment se rendre au boulot à vélo, tout simplement. Donc, le processus est holistique, il est large, mais ultimement, vous avez raison de souligner que développer le vélo, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est simplement des réflexes à instaurer à nos destinations, dans nos municipalités, dans la planification et même sur nos campus.
Mais pourquoi aller voir les entrepreneurs ou tout ça et pas les employés, pas ceux qui vont faire finalement du vélo?
Très bonne question. En fait, c'est que justement, ces lieux-là, ces milieux de vie-là ou ces destinations-là font partie de nos déplacements. Je pense que ça a été mentionné là, par Dr. Poirier, mais lorsqu'on se rend au travail, une fois sur place, les dispositions des aménagements vont influencer notre pratique. Est-ce que j'ai accès justement à des douches? Est-ce que j'ai un endroit pour me changer? Est-ce que j'ai un stationnement sécurisé? Peut-être que j'ai un vélo à assistance électrique qui est un peu plus onéreux, j'ai un local qui est barré.
Oui, c'est sûr.
Donc, faut réfléchir nos destinations comme faisant partie du trajet, puis en ce sens-là, ça prend une réflexion qui est plus large.
Oui, du côté justement de la santé collective, est-ce que nous aurions à gagner à adopter le vélo plus souvent, Dr. Poirier?
Ben, c'est clair. Pour moi, faire de l'activité physique, c'est la meilleure pilule. Alors, si vous joignez l'utile à l'agréable, comment vous voulez être contre la vertu?
Est-ce que vous en faites, vous,
oui,
du vélo? À tous les jours ou juste l'été?
Non, pas à tous les jours. Non, c'est impossible d'en faire à tous les jours. Vous comprenez, quand j'ai des gens rencontrés, quand j'ai un horaire qui est un petit peu erratique, des choses comme ça, non. C'est ça qui est la dichotomie. C'est que les gens, quand on parle de vélo, ils pensent qu'on est complètement crinqué puis que les gens devraient en faire à tous les jours. Puis c'est coûte que coûte, puis à moins 40. Non. Mais il faut que ça soit agréable, puis il faut que ça devienne une habitude. Culturellement, en Amérique du Nord, on n'est pas comme les Européens. Alors, il faut que ça change.
Oui. Qu'est-ce qui vous motive de monter sur votre bicyclette le matin?
Ben, j'arrive, puis j'ai réglé une bonne partie de ma journée. C'est assez intéressant de voir le lever de soleil, quand même.
Oui. Monsieur Lalonde, est-ce qu'on pourrait prendre le vélo comme une mesure de santé publique?
Ouais, c'est une très bonne question. Je crois que oui, certainement. On a déjà une bonne piste de réponse là, avec ce qui vient d'être dit le docteur Poirier, mais le vélo, justement, ça permet d'allier du temps qu'on aurait dans notre journée lié à nos déplacements, puis de l'investir dans notre santé physique et mentale également. En fait, il existe un outil pour calculer l'impact économique d'une activité physique sur le réseau de santé qui est développé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'outil HEAT, là, qui est une méthodologie de calcul. Puis on estimait chez Vélo-Québec là, qu'on faisait une économie d'environ 2 milliards dans notre réseau de santé en ayant la masse de cyclistes qu'on a. Donc oui, c'est significatif. Donc au niveau de la santé physique, mentale aussi, c'est une façon, je dirais, d'offrir un moment de répit ou de commencer sa journée. Là, comme disait Dr. Poirier, mais je dirais aussi d'offrir des options de transport pour des personnes qui peut-être sont dans une situation de neurodivergence. Si on a des questions au niveau du confort dans les transports en commun, des personnes qui vont avoir par exemple un trouble bipolaire, qui sont moins portées à se déplacer dans des transports collectifs vont avoir une option. C'est une façon aussi, on peut penser là, durant la pandémie, avec toutes les solutions, toutes les expériences qu'on a pu faire avec les VAS, les voies actives sécuritaires, mais aussi à travers le monde. En France, on avait les coronapistes qu'on appelait, et il y avait une campagne qui s'appelait le vélo mon geste barrière. Donc ça peut même être utile en cas de crise. Donc, le vélo, oui, a assurément une grande valeur tant au niveau de la santé physique que mentale.
Oui, docteur Poirier, je vais terminer avec vous. Donc, un outil de prévention, le vélo?
Absolument. Absolument. On n'a plus le moyen de nos ambitions, là. Au Québec, là, les gens vivent de plus en plus vieux, avec de plus en plus de maladies chroniques. Alors, si on habitue notre population à être physiquement actif quand ils sont encore sur le marché du travail, mais quand ils vont devenir à la retraite, ils vont continuer sur leur bonne lancée, et ça, ça diminue les coûts de santé, c'est clair. À toutes les fois qu'on introduit 1 $ en prévention, on en sauve 6 en curatif.
Oui. Monsieur Lalonde, est-ce qu'on investit assez?
Ah ben,
vous qui êtes de Vélo Québec, donc.
Avec le chapeau que j'ai, c'est bien sûr que ben moi, l'accélération des investissements dans le développement des réseaux cyclables, c'est important. Assurément, par contre, qu'il y a un progrès qui a été fait qui est notable. Depuis le milieu des années 90, notre réseau cyclable québécois a quintuplé. Et au niveau du nombre de pratiquants, ben, ça suit aussi, l'augmentation est significative. On estime là, qu'on a 800 000 cyclistes de plus sur nos voies cyclables aujourd'hui qu'au milieu des années 90. Donc, mettez une infrastructure, les gens vont s'y rendre. Si ensuite on adjoint ça de mesures d'encouragement, d'éducation, comme on mentionnait précédemment sur les questions de culture vélo, ben, on peut améliorer beaucoup la mobilité des gens. Puis la mobilité, ultimement, c'est un droit. Donc, offrir le vélo dans le bouquet des options de mobilité, ben, ça permet d'accéder à plein de leviers économiques, que ce soit de se rendre à son travail, son milieu d'études, des espaces verts, l'autonomisation aussi des personnes dans leur mobilité, des enfants notamment. Développer des voies cyclables, là, lorsqu'on a des enfants qui sont en mesure de se déplacer à vélo, si nos infrastructures sont sécuritaires, on sauve bien du taxi à nos parents, par exemple, on leur permet de se déplacer, de se développer. Donc, il y a une valeur là, qui est très, très large pour le vélo, puis assurément que ben, c'est une veine à investir.
Oui, puis le vélo électrique, j'aime l'option aussi pour ceux qui sont peut-être un peu moins en forme, mais qui aimeraient quand même être en forme, puis ceux aussi qui sont plus âgés, parce que tout la population québécoise avance en âge aussi.
Oui,
c'est une bonne option.
Oui, assurément, et je dirais aussi, ben, on l'a mentionné, la question de la démocratisation, mais c'est aussi de rejoindre des gens qui ont peut-être des distances plus importantes à franchir ou qui ont des défis topographiques. À Québec, il y en a de la pente, là. Le fait qu'un vélo soit à assistance électrique, ben son succès s'explique par ça. Avoir un système qui aurait été uniquement là, musculaire, ben on n'aurait pas eu la même popularité. Là, on pulvérise les objectifs année après année de ce côté-là. Parce que justement, on a cette technologie-là qui n'est pas très complexe, mais qui fait une grande différence. Donc, pour rejoindre plus de monde, c'est sûr que les vélos à assistance électrique ont une valeur. C'est une très belle révolution,
en fait. Option, oui. Ouais. Entendu. Ben, merci beaucoup. On était en compagnie de Louis Lalonde, porte-parole à Vélo Québec, et du docteur Paul Poirier, professeur titulaire à la Faculté de pharmacie et cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, et surtout porte-parole de l'événement Ça roule. Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est terminé. Je vote pour la science. C'est une production de Science Presse avec Radio-VM. À la régie, comme toujours, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, la réalisation et le micro, Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter l'émission. Vous pouvez la partager si vous l'avez aimée. Mais surtout, visitez la page de l'émission sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine à notre antenne.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.